cours de théologie sur l'Église à la lumière de l'Apocalypse par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 22 août 1995, deuxième conférence.
Je réponds d'abord aux questions. Vous respectez l'ordre. Au sujet de l'église d'Éphèse, que veut dire Jésus quand il dit qu'elle est première? Dans quel ordre est-elle première? Oui. Ça se voit tout de suite, quoi. C'est la question de la surabondance de l'amour. Donc première dans un ordre de sagesse. Un ordre de perfection. Éphèse, les choses de Dieu, on verra ça à propos du gouvernement divin, les choses de Dieu ne commencent pas selon un ordre psychologique. C'est là toutes les confusions qu'on peut faire quand on se sert de la psychologie pour faire de la théologie. La psychologie ne peut pas servir à la théologie. Parce que la psychologie commence à partir de l'aspect imparfait de l'homme. Et Dieu, il est parfait, acte pur. Alors là, on fait des confusions. Vous voyez ? Alors ici, l'église d'Éphèse, c'est l'église du premier amour. Alors le premier amour, c'est vrai pour nous, le premier amour. Il est le premier amour. Il reste toujours le premier amour. Alors c'est très difficile dans l'amour, parce qu'il peut y avoir un premier amour quand on parle du coup de foudre. C'est pas un petit amour, c'est pas une petite allumette, c'est un grand feu. Oui, parce que déjà dans l'amour, même pour nous, l'ordre génétique peut très bien commencer par quelque chose de très, très puissant. Parce qu'on est dans l'ordre spirituel. Et alors dans l'ordre divin encore plus. Donc est-ce première en sainteté? Oui. Parce que la sainteté, c'est l'amour. Victorieux et parfait. L'église de Philadelphie, vous voyez. Je ne veux pas rester trop longtemps sur les églises, mais c'est très intéressant, vous savez. C'est unique ce passage. La correction des sept églises, cherchez bien dans l'écriture. C'est quelque chose qui va très loin. Je ne veux pas, parce que ça, on resterait entièrement là-dessus. Mais on pourrait rester toute la session. L'église de Philadelphie ne reçoit pas de correction à travers ce que vous êtes. À travers ce qui vous est dit sur cette église, quelle vulnérabilité du cœur du Christ nous. il s'agit des vertus théologales, elles nous ont été données gratuitement. Mais nous sommes responsables de la croissance des vertus théologales. Il ne faut jamais l'oublier. Si on n'était pas responsable de la croissance des vertus théologales, il n'y aurait pas de correction. Dieu ne nous corrige pas là où on n'est pas responsable. Il nous corrige là où on est responsable. Alors, quelle est la responsabilité qu'on doit avoir vis-à-vis de la charité? C'est de maintenir une ferveur de charité. Se faire et implique alors cette frontière. Veda, qu'on appelle Taridité, où il n'y a rien de mal. Mais l'aridité risque toujours de s'appesantir et de nous empêcher d'avoir un nouvel élan. Quand le Saint-Père demande un renouveau de ferveur, un renouveau dans l'Église, c'est pour éviter cet état un peu stagnant où il n'y a rien de mal. Et alors, au contraire, la Odyssée, c'est un état de non-ferveur, un état de tiédeur consenti. La tiédeur, telle qu'on l'appelle ici à la Odyssée, implique une tiédeur consentie. Je ne suis ni chaud ni froid, comme disent certains. Il me suffit d'aller au ciel sur un strapontin. C'est suffisant. Pas besoin d'autre chose. Je sais, je ne suis pas un saint. Je suis médiocre en tout. Mais laissez-moi tranquille. Ça, c'est mon genre de vie. Puis, voilà, c'est la Odyssée. On a envie de lui donner un bon coup de pied pour qu'il se réveille. Tu as envie de vomir, c'est bien ça. Alors, vous voyez, les deux derniers, je crois, sont deux états. Un état de tiédeur, un état d'aridité. L'aridité n'est pas la tiédeur. Mais l'aridité risque toujours de nous faire verser vers la tiédeur. Et Dieu dit non. L'aridité, on peut encore être sous le souffle de l'Esprit Saint. Tandis que la tiédeur, c'est consenti. C'est comme ça qu'il me semble qu'on peut expliquer ces deux derniers états. Alors, ça blesse le cœur du Christ. Oui, ça blesse le cœur du Christ. Qu'on risque de manquer de confiance dans la conduite de l'Esprit Saint sur nous. Là, Odyssée, on comprend très bien que ça blesse le cœur de Jésus. Je n'insiste pas plus. Mais creuser. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment on retrouve les sept dons du Saint-Esprit à l'égard des sept églises. Je n'entre pas dedans, je vous dis ça comme piste de recherche. Parce que c'est l'examen de conscience sur l'action des dons du Saint-Esprit. Or, très peu de chrétiens font leur examen de conscience sur les dons du Saint-Esprit. Alors que tout chrétien devrait faire son examen de conscience en tant que chrétien sur les dons du Saint-Esprit. Est-ce que je vis vraiment des dons du Saint-Esprit? Ou est-ce que, pour moi, ça signifie rien? Pour certains, je ne précise pas ce genre de théologie, mais pour certains, les dons du Saint-Esprit, c'est charismatique. C'est-à-dire, oui, il y a des gens qui vivent sous les dons du Saint-Esprit. C'est charismatique. Alors c'est très faux. Les dons du Saint-Esprit font partie de la croissance, de la grâce sanctifiante. Ils font partie donc de notre sainteté. Nous devons demander à l'Esprit Saint de vivre de plus en plus sous son emprise. Nous devons le demander. Tandis que il ne faut pas demander trop les charismes. Ne demandez pas trop à Dieu le charisme de guérison. Et ici un frère, ici avait le charisme de guérison. Hein. Voyez ça. On viendrait non plus pour faire une session de théologie, mais pour se guérir. Il y aurait 4000 personnes ou 20 000 personnes. Je veux bien, Dieu donne des charismes, tant mieux qu'il en donne. Je suis très heureux. Mais je ne les demande pas. Parce que les charismes ne touchent pas ma sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'aimer Jésus. C'est pour les autres, les charismes, très bien. Charisme de prophétie. Alors, On a demandé encore une petite question, mais j'y réponds tout de suite avec les dons du Saint-Esprit. Comment la philosophie de l'art peut aider à comprendre la théologie de l'Église? C'est la conduite de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, c'est un artiste dans l'ordre de l'amour. Et parce que, de fait, il y a eu très peu de philosophie de l'art, de l'activité artistique, dans la philosophie réaliste. Ça a été très peu développé. Alors que je crois qu'il faut le développer. C'est très important. C'est pour ça que les théologiens ne savent plus très bien ce que c'est que l'inspiration. Parce qu'en philosophie de l'art, on doit regarder ce que c'est que l'inspiration. Il y a des artistes qui ont de l'inspiration. Il y en a qui n'en ont jamais. Ils se contentent de copier. Ils ont de l'habileté. Ils sont virtuoses, la virtuosité. C'est pas l'inspiration. Les grands artistes sont inspirés. Et l'Esprit Saint est source de toute inspiration. C'est la cause principale de tous les écrits inspirés de la Bible. C'est le livre de l'Esprit Saint. À travers une quantité d'instruments. Ça a commencé par des instruments anonymes, des traditions. Et puis ça s'est terminé par un ami du Christ et un ami du Saint-Esprit, Jean. Alors je ne sais pas, dans ce très grand orchestre, inspiré par l'Esprit Saint, chaque livre, Isaïe, Ézéchiel, les Nombres, le Cantique des Cantiques. Ce serait intéressant de voir ce grand orchestre. Où sont les flûtes? Où sont les violons? Où est la grosse caisse? Qui de temps en temps ponctue. C'est vrai, c'est Saint-Augustin qui dit ça, donc c'est quand même catholique. C'est Saint-Augustin qui dit ça. Il dit que c'est, l'inspiration, c'est une musique. Et que tous les livres inspirés, c'est un orchestre extraordinaire. Et c'est Marie qui est là. Les théologiens n'ont pas beaucoup continué ce que saint Augustin disait. Mais alors, quand il s'agit de la correction des églises, là, on voit comment l'Esprit Saint corrige. Et il corrige à la fois maternellement, il corrige artistiquement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'action des corrections d'Esprit Saint sur nous, c'est le fortitaire et le suavitaire. L'Esprit Saint corrige avec force, quelquefois avec violence, mais une violence divine d'amour, et avec suavité. Quand l'Esprit Saint convertit Saul de Tarse, c'est l'artiste qui secoue son bonhomme en pleine force. Personne en dehors de l'Esprit Saint ne pouvait convertir Saul de Tarse. Saint-Esprit s'y met. Et Saint-Esprit peut convertir Suavitaire, la petite Esther, tout petit air de flûte, très très doux, très très doux. Merveilleusement doux. Elle est convertie pour un rien, un souffle. Alors c'est intéressant de voir à travers les corrections d'Église l'action de l'Esprit Saint qui est arrêté, qui est faussé. Parce que on oublie ce mode divin de la conduite de l'Esprit Saint. Jésus demeure au milieu des églises, avec toute la diversité, et que nous-mêmes, nous portons en nous toutes ces églises. La seconde partie, chapitre 4. Alors nous allons entrer ici dans la théologie de l'économie divine. Mais la théologie de l'économie divine commence par les corrections. De comprendre pourquoi. C'est des corrections. Ce qu'on ne fait jamais. Hein. On ne commence jamais une théologie de l'économie divine par les corrections. On a peut-être tort. Alors ici, vous allez voir, ça je vous le lis, chapitre 4. Parce que de nouveau, c'est une grande vision de l'Église, du ciel. Cela. Alors remarquez le style de Jean, n'est-ce pas ? Il ne s'inquiète pas beaucoup pour faire des belles phrases. Hein. Après cela, lui dans le temps, et la grande vision de l'Apocalypse à partir du Saint-Esprit, elle est d'éternité. Après cela, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel. Le Christ est la porte. Une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette qui parlait avec moi, disait « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, maintenant, on va voir la croissance de l'Église. Alors, on a vu des corrections. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mais la sobriété, on est au-delà de toute description. Le trône. Et celui qui était assis était semblable d'aspect à une pierre de jaspe et de sardoine. Donc, on présente celui qui est assis sous le symbolisme des pierres précieuses. Les pierres précieuses ont ceci de tout à fait particulier. Elles sont colorées. Elles sont lumineuses. C'est pas la lumière froide électrique. C'est la lumière chaude qui a des propriétés particulières. Vous savez bien, les pierres précieuses ont des propriétés particulières. Alors c'est intéressant de voir comment est présenté le trône d'un aspect de pierre de jaspe et de sardoine. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. de l'humidité de l'arc-en-ciel. Signe de paix. Le trône du Père est entouré d'un arc-en-ciel de paix, semblable à un aspect d'émeraude. Et tout autour du trône, 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, habillés de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Et royaume de prêtres. Et autour du trône, ce n'est pas dans le trône, c'est autour du trône, comme l'arc-en-ciel. Éternité d'éternité. l'éternité, les 24 vieillards tomberont devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosterneront devant celui qui vit pour les éternités d'éternité. Ils lui jetteront leur couronne devant le trône. Et cette première liturgie du ciel, c'est la liturgie de l'adoration des 24 vieillards. Et ces 24 vieillards jettent leur couronne. On ne peut adorer le Père, source de tout amour, que si on reconnaît qu'on est une petite créature totalement dépendante de lui. Et c'est ça, jeter sa couronne. Chacun d'entre nous, nous avons une petite dignité. On s'est fait un petit personnage. On ne peut pas adorer Dieu si on s'identifie à ce personnage. Le président de la République ne peut pas, en tant que président de la République, adorer Dieu. Il doit jeter sa couronne. Un savant, comme savant, ne peut pas adorer Dieu. Il doit jeter sa couronne. C'est l'homme qui adore. C'est la personne de l'homme qui adore et qui a reconnu que son âme était créée par Dieu. Cette espèce de purification radicale par l'adoration qui exige de jeter sa couronne. C'est très beau ça. Et c'est très grand. Et c'est le fondement de tout. C'est le fondement de l'Église. Ça repose sur l'adoration. S'il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de vieillards. Vous faites partie des 24 vieillards si vous adorez. Et pour faire partie des 24 vieillards et adorer, il faut jeter sa couronne. Et plus la couronne est lourde, plus c'est difficile de l'acheter, plus elle est enfoncée dans notre tête et on n'arrive pas à la... Et certaines personnes ne peuvent absolument pas acheter leur couronne. L'orgueil lie notre couronne à notre tête et ramène la personne humaine à une fonction. C'est dans ce sens-là que tout orgueilleux, il est creux. Ontologiquement, parce qu'il ramène sa personne à sa fonction. C'est terrible, c'est ça. Il est premier dans sa fonction, parce qu'il n'est pas premier parmi les hommes. Pour être premier parmi les hommes, il aurait d'être Adam. Si quelqu'un vous dit, moi je suis Adam, pauvre type, il a perdu la tête. Personne n'est premier comme homme. C'est pour ça que l'orgueilleux vit de sa fonction, de son intelligence, de sa fonction. Oui, c'est une description extraordinaire. D'avoir ces 24 vieillards qui jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, parce que c'est toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles ont existé, ont été créées. » Alors vous voyez le mystère de la création, présent fondamentalement, et représenté, du moins vécu, par ces 24 vieillards qui représentent l'humanité, par un geste de prostration où ils jettent leur couronne. Donc les deux extrêmes, si vous essayez de représenter ça, il y a des peintres qui l'ont représenté, n'est-ce pas ? C'est beau, tu vois, c'est très très beau. Le trône, le Père, les 24 vieillards, entre deux, l'acte créateur de Dieu. 3. Pierres précieuses. C'est assez étonnant, les 3 pierres précieuses. Le jaspe, sardoine, l'émeraude, l'arc-en-ciel qui est tout autour, mais qui est tout autour d'une manière très particulière. Et autour du trône, les 24 vieillards. Alors, vous avez les 24 qui dépendent directement de Dieu. Donc, c'est un ordre dans le mystère de la création. Ils sortent du trône, sortent du Père. Des éclairs, des voix, les sept esprits, l'Esprit Saint, que vous voyez sur moi, ces deux symbolismes, les deux symbolismes de l'Esprit Saint, c'est le point de vue des éclairs, des voix, des tonnerres, et les sept torches de feu, qui sont les sept esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer vitrifiée, c'est ces quatre vivants, à première vue, on dira traditionnellement, les quatre vivants ont représenté les quatre évangélistes. Et c'est vrai, dans une certaine iconographie, on voit toujours les quatre vivants représentant les quatre évangélistes. Le lion, le taureau, le jeune taureau, le visage d'homme et l'aigle. On a tous vu ça, tous les cathédrales, dans les cathédrales, partout, partout. Je dis attention, ne vous arrêtez pas aux évangélistes. Ça va beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que il est dit. C'est au milieu du trône, c'est donc relié au Père d'une manière unique. Et en même temps, c'est autour du trône. Donc, si je creuse un peu le symbolisme des quatre vivants, je vois que ce symbolisme des quatre vivants, c'est comme quatre symbolismes du mystère du Christ. De Jésus. Jésus, il est à la fois dans le Père. Il est le Verbe. Et le Verbe est dans le Père. Et il est homme. Et alors, on peut dire que ces quatre vivants exprime quatre symbolismes de Jésus. Le symbolisme du lion. Le symbolisme de la victime. Le lion, c'est l'autorité. C'est le roi. La victime, le jeune taureau. Le visage d'homme. Matthieu représente comment Jésus achève la grande attente messianique et le roi. Marc montre comment Jésus est la victime par excellence. Alors, vous avez, à partir de ce mystère de Jésus, voyez que qu'est-ce qui caractérise le mystère de Jésus. Et les quatre vivants ont chacun d'eux six ailes. Et tout autour et au-dedans, ils sont pleins d'yeux. C'est la lumière. La lumière incarnée. Jésus, c'est la lumière incarnée. C'est le Verbe devenu chair. Et le Verbe est lumière. C'est tout de suite ce point de vue de la lumière qui est montré avec une très grande force. C'est bien le mystère du Verbe. Et cette lumière incarnée implique la puissance, la force, l'autorité, implique l'état victimal, implique la douceur, implique le regard contemplatif. Et c'est très intéressant de voir ça quand on sait combien Thomas d'Aquin, qui ne cite pas du tout l'Apocalypse seulement, dans son traité sur le Christ, insiste avant tout sur la connaissance du Christ. Vous voyez comme c'est proche de cette grande vision de l'Apocalypse. Il est tout Dieu. Jésus est tout lumière. Et c'est pour ça qu'il est exprimé symboliquement de cette manière. Cela exprime merveilleusement ce qui caractérise le mystère de Jésus, le Verbe incarné. Et chacun d'eux, six ailes, et tout autour et au-dedans, ils sont pleins d'yeux. Ils n'ont de repos jour et nuit, ils disent « Saint, 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 le Seigneur Dieu ». Jésus vient pour proclamer la sainteté du Père, du Fils et de l'Esprit, dans une adoration contemplative. C'est cela que Jésus nous apprend en premier lieu. regardant ce qui s'est montré ici. Et ne voyons qu'à partir du Christ, il y a une nouvelle adoration des 24 vieillards. Et chaque fois que les vivants rendront gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour les éternités d'éternité, les 24 vieillards tomberont devant lui. Tomberont devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosterneront devant celui-ci qui vit pour les éternités d'éternité. Et les jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont existé, ont été créées. » Donc, si nous sommes un peu attentifs à cette vision, c'est une vision de la très sainte Trinité, mais totalement différente que celle qui nous est donnée dans le prologue de Saint Jean. Dans le prologue de Saint Jean, il y a en arché. Le principe, celui qui est premier, c'est-à-dire le Père. Et dans le Père, il y a le Verbe. Et du Père et du Verbe, il y a l'Esprit Saint. Cette vision de la très sainte Trinité a été très développée par saint Augustin. Et on peut dire que toute l'Église latine repose sur ce développement de la très sainte Trinité, tel que saint Augustin le donne, tel que Thomas d'Aquin le donne dans sa somme théologique. Le Père. Le Verbe qui est Fils et l'Esprit Saint. Si je regarde maintenant cette vision du ciel telle que l'Apocalypse nous donne, c'est une vision de l'économie divine. C'est moins contemplatif. Celle-là, elle est tout à fait contemplative. À ce point de vue-là, elle est étonnante. Ce qui est la Trinité dans son unité. Et les trois personnes. Je regarde le Père, source du Verbe, et le Père et le Verbe. Tandis qu'au contraire, si je regarde cette vision, vous voyez comme elle est beaucoup moins simple. Je crois que c'est la vision de la très sainte Trinité dans une théologie de l'économie divine. On voit le Père, le trône. Le trône, c'est l'autorité. L'autorité souveraine, première. Symboliquement, et les trois pierres précieuses qui montrent les qualités de paix qui vient du Père. Tout ce qui vient du Père est paisible. Le Père est source de paix. L'arc-en-ciel d'émeraude. Vous voyez, premièrement, dans une vision de l'économie divine, le Père, Dieu, Dieu le Père, la création des 24 vieillards. après la création, l'Esprit Saint qui enveloppe tout. L'action d'Esprit Saint qui est enveloppante et qui vient du Père. Et qui est montrée après la création. Et dans la lumière de l'Esprit Saint, la créature, par excellence, l'Immaculé. Et de l'Esprit Saint et de la créature immaculée, Marie, les quatre vivants, le mystère du Christ. Et le mystère du Christ nous révèle le Verbe, et nous révèle le Fils. Et le Christ est vu à travers ces quatre visions. Et ce mystère du Christ va transformer les 24 vieillards. Leur adoration est tout autre. Elle est intériorisée, des adorateurs en esprit, en vérité. Et c'est une vision trinitaire, assumant la création et assumant le mystère du Verbe incarné. Cette vision a été beaucoup plus gardée du côté de l'Orient. Voyez, l'Occident et l'Orient. Deux visions trinitaires. Deux aspects de la vision de la très sainte Trinité. Alors, dans cette vision trinitaire, on a le Père, l'Esprit et le Verbe. Et c'est pour cela que, de fait, dans cette vision, c'est beaucoup plus difficile de comprendre comment l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Puisque c'est le Père créateur. En réalité, si le Père est créateur, le Verbe est déjà présent dans la création. C'est sûr. Mais il n'est pas explicité. C'est l'Esprit qu'on voit tout de suite en premier lieu. Et le chef-d'œuvre de Dieu, qui est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint, l'Immaculé, de l'Esprit et de l'Immaculé, la révélation des quatre vivants du Christ. Et le Christ va transformer l'adoration des 24 vieillards. C'est très beau comme vision trinitaire. C'est pas contradictoire. Hein. Ce sont deux visions parallèles. L'une qui va fonder toute la théologie scientifique. L'autre qui est dans une théologie de l'économie divine. Je crois que c'est à partir de là qu'on peut seulement saisir, voyez, ces deux orientations de la théologie latine, si j'ose dire, de l'Occident, et la théologie de l'Orient.